L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Lundi 10 et mardi 11 février dernier avait lieu le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris, co-présidé par la France et l'Inde. Un événement qui a rassemblé des centaines de pays, aussi bien par ses représentants politiques que par ses acteurs privés. La France envisage des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, aidée par l'Arabie Saoudite. Cette ambition s'étend plus largement à l'Union européenne, puisque Ursula von der Leyen a annoncé 200 milliards d'euros d'investissement dans cette technologie. À côté de cet enthousiasme et en parallèle de ce sommet, s'est également déroulé un contre-sommet de l'intelligence artificielle. Ce contre-sommet, initié par le philosophe Éric Sadin, porte un regard beaucoup plus pessimiste sur une technologie qui pourrait menacer un grand nombre d'emplois dans les secteurs relationnels, administratifs ou intellectuels. D'autres conséquences dramatiques sont envisagées, notamment dans le domaine de l'information. Pour y voir plus clair sur ce débat et pour avoir un exemple d'application concrète de cette technologie, nous accueillons aujourd'hui Pierre Cartier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre Cartier, vous êtes responsable du pôle transition numérique de Le Mans Université. Concrètement, en quoi consiste votre rôle ?
Mon travail à l'Université du Mans, c'est de coordonner les actions du numérique pour améliorer les conditions de travail et les conditions d'apprentissage pour les étudiants.
Et alors, est-ce que vous travaillez avec l'intelligence artificielle et sur quelles tâches ?
Depuis quelques années, on a utilisé des programmes d'intelligence artificielle. Par exemple, aujourd'hui, toutes les photos des cartes étudiantes sont traitées par intelligence artificielle. Donc, ça nous permet d'éviter qu'un humain ait plus de 3000 photos par an à vérifier à la main. Et donc, c'est une IA aujourd'hui qui vérifie que la photo est conforme. Alors, on ne fait pas une vérification d'identité, hein, on ne va pas jusqu'au profiling comme pourrait le faire la Chine aujourd'hui. On est juste à vérifier qu'il y a un visage sur la photo et on envoie les cartes étudiantes à l'impression. Et ça fait gagner pas mal de temps.
Et vous comptez prochainement fonder votre entreprise où là, vous appliquerez l'intelligence artificielle dans un tout autre domaine. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ?
Oui. Donc, l'entreprise est déjà créée. J'ai déjà un petit peu commencé mon activité avec Playad. Et donc le but là, c'est d'aider les entreprises, les petites PME du territoire, à intégrer de l'IA dans leur processus de travail, de le faire intelligemment, hein, ça sert à rien de mettre de l'IA s'il n'y a pas besoin, mais de trouver avec mes clients les cas d'usage qui fonctionnent bien, sur lesquels ils peuvent gagner du temps et sur lesquels ils peuvent avoir un retour sur investissement à plus long terme.
D'accord, parce que j'ai jamais demandé, ça veut dire quoi en fait utiliser les IA intelligemment ?
On pourrait très bien essayer d'automatiser une tâche, mais s'il n'y a pas besoin en fait, il faut trouver les bons cas d'usage sur lesquels on arrive à gagner du temps, à se libérer du temps pour faire autre chose, du travail plus humain. Je pense que personne n'a envie de faire des dizaines de rédiger des dizaines de devis pour essayer de convertir un client. Si jamais on ne le convertit pas, c'est du temps perdu. Donc, c'est des tâches qui peuvent être faites assistées par IA pour gagner beaucoup de temps et se concentrer sur ce qu'on sait faire, à savoir produire et faire du commerce. Quoi.
Alors, je reviens peut-être sur l'université pour mettre en avant une crainte qui existe par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vais prendre un exemple. Lundi 10 février, sur France 2, Anne-Sophie Lapix s'interrogeait Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, qui a développé en gros l'équivalent français de ChatGPT, ça s'appelle Le Chat. Donc, c'est un robot conversationnel. Alors, sur le sujet des étudiants qui utilisent l'IA pour faire leur travail, Arthur Mensch défend qu'il s'agit d'un moyen d'apprendre plus vite et non pas de tricher. Alors, vous qui êtes au contact de cette technologie, est-ce que ça vous semble cohérent ? Est-ce que vous pensez qu'une utilisation répétée de ces robots qui récoltent instantanément l'information peut vraiment être un outil qui décuple les capacités d'apprentissage ?
Si c'est bien utilisé, c'est un très bon outil pour aider à l'apprentissage. Si c'est mal utilisé, on le voit tout de suite, notamment lors des oraux, lors des évaluations sur table où les étudiants sont incapable d'avoir une connaissance propre. Et c'est là aussi où c'est très important, c'est-à-dire que l'IA ne va pas le faire à votre place. L'IA va vous assister sur une tâche, mais l'humain reste expert de son domaine. C'est lui qui a la maîtrise et la connaissance de son domaine. C'est lui qui évalue à la fin le travail de l'IA et de savoir est-ce qu'il faut le modifier par-ci, par-là, est-ce que j'en garde une partie, etc. Donc c'est vraiment ce travail et ce regard critique qu'il faut aujourd'hui enseigner. Et à l'inverse, il ne faut évidemment pas bannir l'usage de ces outils, parce que ces outils, ça va devenir un incontournable sur le marché du travail demain, et tout le monde va devoir savoir s'en servir, mais correctement.
Mais alors, c'est intéressant que vous mentionniez l'aspect critique, voilà, le fait d'exercer son esprit critique, parce que justement, une étude conduite par Microsoft et l'université Carnegie Mellon pointe les effets sur le cerveau d'une délégation à une IA générative de tâches d'analyse de connaissances. Et l'étude conclut en fait que plus les personnes utilisent l'IA générative dans leur travail, moins justement elles font preuve en fait d'esprit critique, et que plus elles font appel à ces algorithmes, moins elles sollicitent leur capacité d'analyse, au point que cela peut, je cite, « entraîner la détérioration de facultés cognitives qui devraient être préservées ». Donc il y a un risque quand même à les utiliser régulièrement.
Il y a un risque effectivement, mais on peut faire en fait le calque avec ce qui s'est fait il y a quelques années maintenant avec la calculatrice. La calculatrice, on apprend dès l'école primaire à savoir faire des calculs basiques, et puis dès que ça commence à devenir un peu plus complexe, bah finalement on utilise la calculatrice parce que j'ai pas envie de faire l'addition de 50 nombres à la suite. Je pourrais le faire, ça va me prendre juste 20 minutes parce qu'il va falloir que je prenne un papier, que je note plein de trucs et tout ça, là où la calculatrice va pouvoir le faire. Donc en fait, on met ce débat aujourd'hui sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a une fonction cognitive un petit peu plus poussée que simplement remplir des formules mathématiques. Donc effectivement, faut s'entraîner à avoir ce regard critique. Il faut être capable de faire sans, en fait. Faut se dire que demain, si je n'ai pas l'outil sous la main, est-ce que je suis capable de produire quelque chose ? Si je ne suis pas capable, c'est qu'il y a un vrai problème.
Parce qu'on constate quand même qu'avec l'évolution des technologies, on prend par exemple le téléphone portable, on a juste à enregistrer un numéro, donc on n'a plus à se souvenir du numéro. Le Google Maps, on n'a plus à se souvenir d'un itinéraire, à développer son sens de l'orientation. Vous parliez de la calculatrice, on n'a plus à faire du calcul mental. Et au final, on perd un peu ses capacités. Effectivement, on a sans doute plus, par exemple, la capacité d'apprentissage par cœur qu'on avait avant, tous les outils qui nous autorisent à ne plus apprendre par cœur. Alors, est-ce que ça risque pas d'arriver exactement pareil avec l'esprit critique, l'esprit d'analyse, par l'intelligence artificielle ? Vous pensez qu'on peut éviter le risque, même avec un usage répété ?
Oui, je pense qu'on peut. Ça va juste, enfin, on va détourner le cerveau qui va plus concentrer sur ces tâches spécifiques-là. Il va s'entraîner plutôt sur des tâches de supervision, de fonctionnement de l'IA, de l'analyse critique. Elle, on peut pas y échapper. Bon, c'est impossible de laisser une IA dans la nature toute seule. Elle n'a pas de volonté propre, elle n'a pas de sens critique, elle n'a pas de sens moral. Donc, aujourd'hui, moi, je vois pas comment on pourrait se passer de cet esprit critique en tant qu'humain.
Alors pour aborder un autre aspect qui inquiète, c'est l'aspect de l'information. Il faut noter que pour le moment, ces robots ne sont pas fiables. Une réponse sur 5 contient des erreurs factuelles selon la BBC. Et chaque robot produit des réponses différentes selon l'État qui a la main dessus. Par exemple, DeepSeek, l'application chinoise, ne fera jamais mention de la manifestation de Tiananmen. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque à développer massivement des moyens d'information qui ne sont pas fiables ? Le Trumpisme, la post-vérité, est-ce que ça ne risque pas de devenir un phénomène global par le biais de l'intelligence artificielle ? Et en définitive, ce qui est censé être un moyen d'accès à l'information ne pourrait-il pas devenir un moyen de contrôle de l'information ?
Tout à fait, comme l'ont été aussi les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, bien avant l'ère de l'IA. Donc à partir du moment où il y a un tiers qui détient une capacité de pouvoir et d'information sur quelqu'un d'autre, il détient ce pouvoir de changer la vérité.
Là, pour vous, il n'y a pas de rupture, c'est une continuité, quoi.
C'est une continuité de ce que l'humain est capable de faire de néfaste, ça c'est une certitude. Maintenant, le positif dans tout ça, c'est qu'il y a une communauté qui est la communauté de l'open source. L'open source, c'est la capacité à mettre des programmes en libre accès sur Internet, sur lesquels on peut vérifier les sources, sur lesquels on peut vérifier les données qui ont servi à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Et par le sens critique de l'ensemble de la population, on est capable de garder le contrôle sur ces outils-là. Et c'est ça aujourd'hui que je prône aussi avec mon entreprise Pléiade, c'est de dire vous avez le pouvoir de garder vos données en intérieur et d'avoir des IA souveraines sur lesquelles vous maîtrisez entièrement les données et ce qu'elles deviennent. Quoi.
Et alors, ces questions sur l'information et d'autres sujets de débat n'étaient pas absents du sommet sur l'IA, parce que là, on a beaucoup parlé de sujets qui émergeaient dans le contre-sommet de l'intelligence artificielle, mais ils en ont parlé aussi au sommet principal. Hein. Et en fait, la France, la Chine et l'Inde ont signé pour une IA, je cite, « ouverte, inclusive et éthique », sans les États-Unis et le Royaume-Uni, ceci dit. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, une IA éthique ? Est-ce que vous concevez ce que les signataires entendent par là ?
Une IA éthique, c'est une IA sur laquelle on sait quelles sont les données qui ont servi à l'entraînement de ces IA. Notamment, on va beaucoup parler de biais. L'humain produit des données biaisées. Si on prend un cas assez connu dans l'histoire des prêts bancaires aux États-Unis, les femmes n'avaient pas de compte bancaire avant les années 70. Donc si j'entraîne une IA à autoriser ou non quelqu'un à avoir un prêt bancaire, bah, si je me base sur des données humaines, bah, y a un énorme biais qui est sexiste. Et ça, il y en a pléthore dans l'histoire aujourd'hui des biais qui ont été retracés. Donc le fait d'avoir des données ouvertes à l'entraînement des modèles, ça permet à posteriori de se rendre compte qu'effectivement il y avait des biais de données. On parlait tout à l'heure de la Chine, ben, c'est un biais qu'elle inclut elle-même, de supprimer des données factuelles de ses bases de connaissances pour que l'IA ne puisse pas apprendre cette information.
Mais alors en fait, l'élaboration d'une IA éthique, ça demande un degré de maîtrise énorme de la part des pouvoirs publics en fait. Est-ce que ces voies de régulation sont possibles selon vous ? Est-ce qu'il est possible par exemple de réguler aussi le vol de données dont se plaignent beaucoup d'artistes ?
Tout à fait. Il y a des acteurs locaux, alors plus ou moins affiliés à des entités publiques, mais il y a des acteurs qui prônent, donc dans le monde de l'open source, qui prônent ce genre de logiciel. Et on a des IA aujourd'hui sur le marché qui sont forcément un petit peu moins puissantes que les leaders commerciaux, mais qui arrivent à avoir des résultats plutôt intéressants avec des données entièrement ouvertes, totalement transparentes. Et sur lequel il y a pas de biais, ou en tout cas pas de biais volontaire en tout cas.
Alors on vous a déjà reçu sur Radio Alpa, Pierre Cartier, hein. Vous vous êtes plutôt présenté comme optimiste sur le sujet de l'IA, et qu'avec de la vigilance et de l'éducation à l'usage, il n'y aura pas de risque majeur pour les emplois ou l'information. Et j'ai l'impression que vous avez toujours le même discours aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles inquiétudes par rapport à ça.
Honnêtement, non, j'ai pas trop changé de position là-dessus. Je maintiens que ça va pas supprimer des emplois, mais que ça va transformer le monde du travail. C'est sûr que si vous êtes en concurrence avec un autre humain qui sait utiliser l'IA et qui est deux fois plus productif que vous, là, votre job, il va sauter, parce qu'il y a un humain qui va prendre avec une IA qui va prendre votre place. Par contre, il y a très peu de chances qu'une IA seule vienne remplacer votre travail. En tout cas, dans les 5 à 10 prochaines années, c'est une certitude que non. On ne sait pas où en sera la technologie dans 10 ans, évidemment.
D'accord, vous insistez sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'IA sans humain.
Aujourd'hui, non. Elle n'a aucune volonté propre et une IA toute seule, elle ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, elle ne répond qu'à des instructions. Si vous allez sur ChatGPT ou le chat de Mistral, vous ouvrez une fenêtre, il ne va rien se passer. L'IA, elle ne va pas vous proposer des choses.
Vous dites aujourd'hui, parce que vous pensez que ça pourrait évoluer ?
Ça peut, la recherche évolue constamment. Là, aujourd'hui, on essaie de tendre vers ce qu'on appelle une IA générale, qui est capable d'avoir un sens critique et un but, une volonté propre. On en est quand même aujourd'hui très très loin. Bon, là, je laisse les experts parler, hein, mais Yann Lequin, qui travaille chez Facebook, est sur ce même genre de discours.
Je vous remercie Pierre Cartier, responsable du pôle transition numérique de Le Mans Université et donc patron de Pléiade.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.